Dans l'exercice de la méditation, il y a le travail de concentration où je pose l'esprit sur un objet unique. Et puis, il y a tout un travail d'exploration qui permet de connaître peu à peu le qui suis-je, au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience humaine. L'exercice de la méditation, c'est une forme de science de l'esprit. J'apprends à me connaître moi-même de manière à pouvoir lâcher prise de tout ce qui est superflu et qui cause des entraves et qui est source d'entraves. Je ne peux pas lâcher ce que je ne connais pas. Et lorsque nous nous asseyons et que nous fermons les yeux, je me souviens mon petit-fils qui, une fois, on était allé au Mont Pèlerin et puis on avait vu tous les moines qui sortaient de la salle de méditation. Puis il avait dit oh, voilà tous les Bouddhas. C'est pas parce que nous fermons les yeux que nous devenons Bouddha à l'intérieur, vous avez remarqué. Et souvent, les gens me disent ah, oh, mais depuis que je fais de la méditation, c'est pire. C'est pas que ce soit pire, mais c'est que tout à coup, je réalise. Oh, dis donc, là, à l'intérieur, c'est le boulevard, hein, ça y va. Oh, bah, dis donc, je croyais que j'avais pas mal d'endurance, mais sitôt que ça fait mal, pff, j'ai envie de bouger, ça devient insupportable. Ah, ok. Ce sont des réalisations. Nous réalisons à quel point le fait de simplement être ici et maintenant est difficile. C'est le Bouddha qui dit pour éduquer l'esprit, il est essentiel de contempler nos manques sans déception et nos compétences sans les ignorer. De savoir, ok, juste maintenant c'est très agité, mais je suis présente. Juste maintenant, il y a de l'aversion, j'aime pas cet exercice, mais il y a de l'intérêt, je veux bien le continuer. Waouh, je continue l'exercice malgré que ce soit difficile. Qu'est-ce qui fait que je continue? C'est une qualité que je peux nommer. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle les obstacles et les facteurs de l'éveil. C'est-à-dire que par rapport à l'exercice de la méditation, mais aussi par rapport à nos vies, il y a certaines énergies que nous pouvons reconnaître et que nous n'avons pas besoin de nous approprier. Parce que ce sont des énergies universelles. Chacun d'entre nous les expérimente. Et la première, c'est l'agitation. Le fait que lorsque je commence la méditation, je me rends compte qu'il y a énormément de pensées qui émergent et que ce calme auquel j'aspire n'est pas si facile à installer. C'est une expérience normale. Je ne suis pas particulièrement peu douée. Il s'agit vraiment de cultiver l'esprit. C'est vraiment une manière de donner du soin, d'habituer l'esprit à recevoir l'expérience. En fait, si l'esprit est agité, c'est parce que derrière, il y a une illusion. C'est l'illusion que ce qui m'apporte le bonheur, c'est l'expérience. C'est parce que l'expérience est comme je la veux que tout va bien. Dans l'exercice de la méditation, nous nous rendons compte que nous avons une compétence beaucoup plus grande que celle d'être attaché par le bout du nez au monde conditionné, aux conditions qui changent. Tout va bien dans ma vie, tout impec. Et puis tout va mal, et puis quoi? La cata. Est-ce que c'est ce que nous voulons vraiment? Ou est-ce que nous souhaitons quelque chose de plus inébranlable à l'intérieur de nous-mêmes et aussi de plus sage? Depuis la nuit des temps, nous essayons d'avoir un monde conditionné qui ne crée aucun problème à personne. Qui est-ce qui a réussi? Qui est-ce qui a réussi? Je pose la question, s'il y a quelqu'un, dites-moi. Le Bouddha nous a dit, ça c'est l'illusion. Nous voulons que ce monde nous donne quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Donc, nous l'expérimentons pour la première fois dans l'exercice de la méditation. Ah ouais, c'est agité. Mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de toujours agité. Ça veut dire que dans l'instant, il y a une énergie d'agitation. Et si je m'exerce à l'accepter, à l'avoir, à ne pas en faire un problème, à ne rien rajouter d'autre, que c'est juste ça, alors la pleine conscience se fortifie et à terme, il est parfaitement possible d'avoir en même temps l'agitation et la pleine conscience. Mais pour ça, il ne faut pas se mettre en opposition avec l'expérience. Si je me mets en opposition avec l'expérience, je vais faire expérience pleine conscience, expérience pleine conscience. Mais si j'accepte l'expérience, elle n'est pas agréable. Je ne dis pas que c'est agréable d'être agité. Mais ça n'est pas un problème. Ça change. Et ça ne change pas plus vite ni moins vite si je me mets en opposition. C'est presque le contraire. Disons que si je ne me mets pas en opposition, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, au fond, peu importe. Donc c'est moi qui crée le problème. Il y a une énergie qui vient, je crée le problème. Je peux lâcher, mais je ne sais pas le faire. Donc, dans l'exercice de la méditation, à chaque fois que vous avez beaucoup de pensées, vous pouvez juste dire « Ah ouais, c'est un des obstacles. Ah, c'est l'obstacle de l'agitation. » Et vous employez pour faire ça deux qualités qui sont des facteurs de l'éveil. C'est le facteur de l'exploration ou de l'investigation. J'emploie ma sagesse pour dire « Ah ouais, Annelle a parlé de l'agitation. Ah ouais, je reconnais, c'est l'agitation. » Ça, c'est employer la pensée de manière extrêmement bénéfique. Je reconnais l'énergie dans l'instant. Vipassana, voir les choses telles qu'elles sont. Et l'autre facteur, c'est l'intérêt. En général, quand il y a quelque chose que dans mon état aveugle, je ne trouve pas bien, il n'y a pas d'intérêt pour cette chose-là. Au contraire, il y a de l'aversion. C'est pas bien, j'ai de l'aversion. Mais si je peux maintenir un intérêt, ah, c'est l'agitation. Alors, je suis dans la cible. Je fais ma part, ici et maintenant. Et nous l'entendons, ce que je vous dis, nous l'entendons avec notre mental, ça a plus ou moins d'effet, mais après nous l'expérimentons, et là ça a un réel effet. Personne ne peut nous l'enlever. Si j'ai appris à reconnaître l'agitation, et à me mettre plus ou moins en harmonie avec ça, personne ne peut m'enlever la force intérieure que j'ai développée par rapport à cette énergie. Le contraire de l'agitation, c'est la somnolence ou la torpeur. Souvent au début, avec la somnolence ou la torpeur, nous avons l'impression que c'est bien, que je réussis bien. C'est pas tellement que je réussisse bien, c'est que c'est agréable. Et comme je fais l'amalgame entre agréable et réussite, ben évidemment je trouve que je réussis bien. Mais en fait, je ne suis pas du tout là. Je suis en train de penser à des beaux rêves sympathiques. Le temps passe vite. C'est chouette. Moi, j'aime bien la méditation. Ah, c'était une bonne méditation. Mais c'est bizarre parce que je ne suis pas sûre que j'étais tout à fait là. Donc, de reconnaître, ah, c'était l'expérience de la somnolence. En soi, ça n'est pas un problème. Surtout pas au début. Quand on devient de long-term practitioners, quand on pratique beaucoup et qu'on prend des habitudes de somnolence, c'est très ennuyeux. Mais au début, laissez-vous tranquillement dormir. Et quand vous vous réveillez, ah, vous venez avec l'intérêt. Facteur de l'éveil, de l'intérêt et de l'investigation. C'était quoi ça? Ah, c'était la somnolence et la torpeur. Coucou, bienvenue. Pas de jugement, aucun jugement. Les deux autres obstacles qui sont polaires, c'est le désir et l'aversion. Nous avons sans cesse dans notre vie des désirs et des rejets. Ce que j'aime, je le veux, ce que j'aime pas, je le veux pas. Ce qui me fait plaisir, je le veux, ce qui me cause de la peine, je ne le veux pas. Et dans l'exercice de la méditation, nous expérimentons ça de manière très directe. Le corps a mal? Qui c'est qui aime que le corps ait mal? Hein? Qui? Peut-être quelqu'un. Des fois, il y a des méditants qui me disent « Oh, moi j'aime bien parce qu'au moins je dors pas puis je suis beaucoup moins agitée. » C'est vrai. C'est vrai. La douleur physique peut être une très bonne porte d'entrée pour la concentration. Je laisse être la douleur physique, c'est l'horreur. Mais je suis vraiment là. Et j'ai un avantage parce que je veux développer la concentration, la pleine conscience. Donc c'est ok, je laisse mon corps avoir mal. Et quand l'aversion vient, je déteste cette douleur, je ne peux pas l'avoir en peinture. C'est quoi ça? Intérêt, investigation. Ah là, il y a de l'aversion. C'est-à-dire qu'il y a une expérience physique qui est additionné d'une expérience psychique, j'aime pas avoir mal. Et qu'est-ce que j'en fais? Ben rien. La méditation, c'est un chemin de purification par le non-faire. J'ai absolument rien à faire, mais j'ai à voir. Je suis en pleine conscience avec cette énergie de l'aversion. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas laisser l'aversion être accueilli par la pleine conscience, c'est que je la juge. Depuis tout petit, tu dois être gentil, tu dois pas être méchant, tu dois pas avoir d'aversion, tu dois ci, tu dois ça. Ah forcément, ça vient et en même temps que cette énergie vient, tu dois pas. Donc je ne peux pas la mettre en lumière dans un premier temps. Je ne m'autorise pas parce que je crois qu'elle est fausse, mais en elle-même, elle n'a rien de faux. Elle ne dit qu'une chose, c'est « regarde-moi ». Regarde-moi, s'il te plaît, vraiment. Regarde-moi vraiment. Ouvre ton cœur. Et lorsque nous l'avons fait une fois, lorsque nous avons vraiment pu oser, ça demande un certain courage, sentir cette aversion à l'intérieur du corps, ça peut se sentir, des fois c'est là, des fois c'est là, des fois c'est là. Sentir comme c'est désagréable, sentir le jugement qui vient tout à coup, la peur, j'ai de l'aversion pour l'aversion. Peu à peu, cette énergie perd son côté envahissant et confusant. Le mental est confusé par ces énergies-là. Je ne vois plus clair. Et l'aversion, c'est un manque d'équanimité. L'équanimité est un des facteurs de l'éveil. Quand je suis dans l'aversion, que je n'aime pas l'expérience, c'est que je manque de cette sagesse qui me dit « Mais ce que tu veux, c'est la totalité. » Tu veux l'unification, tu veux être un, tu veux être plein, tu veux être vraiment bien. Eh ben, regarde, il y a quelque chose qui est là, tu ne le veux pas. Comment tu veux être plein? En voulant que la moitié de ta vie. Donc, la sagesse aide à dire, mais oui, c'est ok, vas-y. Ok, t'es pas sûr, mais essaye. Essaye, tu verras. On ne peut qu'essayer pour trouver. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Edison qui disait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai essayé 10 000 fois sans jamais trouver. » C'est autre chose. « L'équanimité, c'est-à-dire cette qualité de non-préférence, voir les choses telles qu'elles sont, vipassana, c'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire ne pas avoir de préférence. S'il y a du doute, il y a du doute. Ah, puis quoi? Quel est le problème? Mais j'ai peur du doute. Il me confuse. Je déteste être confuse. Alors, il n'y a pas seulement la confusion, il y a encore l'aversion. Ah. Mais je peux tout voir, ça. Il n'y a pas de problème. Tout ça peut être vu. Attention pure. J'ai pas besoin de créer quelqu'un qui est dans la confusion et dans l'aversion. Non. Il y a une énergie ici et maintenant. Elle n'était pas là avant, elle ne sera pas là après. Qu'est-ce que je veux en faire une personne qui est comme ça tout le temps, qui a des problèmes? Ah, inutile. Le désir. Ce que nous désirons dans l'exercice de la méditation, en général, c'est une bonne concentration, du calme, un corps qui est bien ancré, bien posé, la paix, si possible. Je viens là pour être en paix. Et puis, qu'est-ce que je trouve? Donc, qui c'est qui a été parfaitement en paix pendant cette première demi-heure d'assise? Qui? Personne? Ah ouais, personne. Des fois, il y a quelqu'un quand même, hein? Ça arrive. Ah. Parce qu'au fond, la paix n'est pas une expérience. La paix n'est pas une expérience. La paix, c'est le lien que je crée à l'expérience. Et je suis vraiment en paix lorsque je suis libérée de l'impact de l'expérience sur le corps et l'esprit. Lorsque le corps et l'esprit restent dans un ancrage puissant au qui suis-je, mais au qui suis-je fondamental à l'essence de l'être, avec toutes les expériences intérieures et extérieures. C'est ça l'exercice de la méditation. Donc le désir, nous l'expérimentons, souvent c'est un peu lié à l'aversion, hein. J'ai un peu de l'impatience. Pourquoi j'ai de l'impatience? Parce que j'aimerais que la cloche sonne. C'est long ce truc, hein. Elle sonne quand cette cloche? Ah, puis on a déjà fait tout un tour de marche, puis on en fait encore un. Oh, quel est le désir là derrière, hein? Le désir peut être vu à plusieurs niveaux. Il y a ce désir lié à l'exercice de la méditation qui lâche relativement vite quand la concentration s'installe. Mais après, il y a le désir fondamental qui est le désir d'existence. Je veux exister. Et bien sûr, nous voulons exister, mais nous pouvons le conscientiser, ce désir d'existence. Et quand il est conscientisé, la vie est exactement la même, mais au lieu qu'il y ait toujours un enjeu, oh, si je n'existe pas, je meurs, quoi, c'est horrible. Eh ben non, je peux exister tranquille. Si je meurs, je meurs. De toute façon, on va mourir. Hein. Pas de doute, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc si je peux vivre ma vie sans avoir ce besoin d'existence qui est lié à la peur de la mort, ou en tout cas en apprivoisant ce désir fondamental, quel cadeau je me fais. Quel cadeau je fais au moi. Il sait qui il est vraiment. Et le dernier des obstacles, c'est le doute. Là aussi, le doute, il y a ce petit doute du début. On peut douter de nos compétences parce qu'on n'a pas expérimenté grand-chose, on a fait peu de réalisations intérieures. Donc, évidemment, il y a du doute puisque je ne sais pas encore. Je peux douter de moi-même, on doute beaucoup de soi-même. En général, on doute de soi-même. Mais on peut douter de l'enseignant. Oh, mettons voir, qu'est-ce qu'elle raconte, elle vient d'où celle-là? Je ferais peut-être mieux de faire de l'Advaita Vedanta, ou bien... Quand l'expérience devient très douloureuse, qu'il y a de l'aversion, de l'agitation, le doute arrive assez facilement, hein? Et puis tout d'un coup, je suis en train de chercher ce que je pourrais bien faire d'autre, qui me nourrirait, mais c'est pas que j'ai besoin d'être nourri d'autre par autre chose, c'est que franchement l'expérience ici et maintenant elle est pas chouette et puis que je le vois pas. Donc ça me projette dans le doute. Et le doute, je peux douter de l'exercice lui-même, du vipassana lui-même. Le doute a ça d'intéressant si vous regardez que ce soit dans vos vies hein, ou dans l'exercice de la méditation, c'est que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin d'avoir une certitude. Le gris, non merci. C'est blanc ou noir. C'est moi ou lui. C'est ça ou ça. Mais je ne peux plus évaluer les choses d'une manière confiante. Si il a tort, j'ai raison, mais si il a raison, j'ai tort. Oh, quelle horreur, ça me met dans le doute, quelle horreur, j'ai tort. Non, chacun a ses opinions. Des opinions contraires peuvent parfaitement coexister. Et le doute est contrebalancé par l'investigation. Lorsque la qualité conceptuelle de l'investigation s'installe, elle n'est pas au service du moi qui doit absolument survivre. Elle est au service d'une quête, qui est une quête plus large. Comment est-ce que je peux prendre ma place, faire ma part, être lié à quelque chose de plus grand que moi, peut-être, sentir combien juste ma propre survie avec mes propres besoins, mes propres réussites, mes propres... Ok, mais il y a les autres. Est-ce que je peux avoir un élan qui est un peu plus altruiste? L'investigation, elle se souvient d'une quête plus fondamentale que juste mon bonheur avec les petits bonheurs qui sont les miens, mais qui sont terriblement vulnérables. Ils sont importants. Ils sont ok. Mais il faut les mettre à leur place. C'est important de les mettre à leur place. En général, avec les obstacles, nous avons envie de les contrôler. Et ça, c'est voué à l'échec. Nous ne pouvons pas contrôler les obstacles. Essayez. J'ai de l'aversion, je ne veux pas mon aversion, j'ai de l'aversion pour l'aversion, c'est pire. C'est vitueux. J'ai de l'aversion, où est le problème? C'est l'aversion. Je lui ouvre l'espace de conscience. J'ai vu que comme le son, il n'y a rien. Tout d'un coup, aversion. Oh tiens, c'était quoi ce bruit-là? Ah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, fin de l'aversion. Ah, ça se passe comme ça, vous êtes d'accord? Ou bien aversion parce que le corps a mal. Plouf, j'ai bougé. Est-ce que l'aversion est encore là? Eh bien, elle n'est plus là. Donc, la pleine conscience demande de coller à l'expérience. Elle ne demande pas de créer une expérience et de la faire durer mentalement. Et ça, c'est difficile. C'est quelque chose à expérimenter. Dans les facteurs de l'éveil, il y a cet intérêt ou cette joie qui fait que je n'ai pas besoin forcément d'avoir une expérience particulière. Je m'intéresse aux choses parce qu'elles sont là. Et je sais que la libération ne peut être que parce que je lâche prise de ce qui est là. Là. Donc l'intérêt ou la joie, elle vient parce que, d'une certaine manière, la pleine conscience fait son œuvre de confiance. Si c'est là, c'est que ça doit y être. C'est Pema Chödrön qui dit que vraiment tout ce qui émerge dans le champ de conscience est exactement ce dont nous avons besoin pour grandir et pour cultiver l'être. Tout ce qui émerge. À nous de savoir quoi en faire et comment l'accueillir. Donc ça, c'est le facteur de l'intérêt ou de la joie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de joie? C'est que je ne peux pas être dans l'équanimité. Je suis toujours en train de choisir. Ça, je veux bien, ça, je veux pas. Des fois, je vois, oui, je suis en train de choisir, mais au moins, je le vois. Et puis, l'autre qualité, c'est cette qualité d'investigation où je questionne comment être là. Quoi faire de cette expérience qui est là? Et au lieu de immédiatement bouger parce que j'ai rien vu, puis je suis je sais pas où, puis tout d'un coup je vois, tiens, mon corps a bougé. Eh ben non, ah ouais, ça fait mal. Puis je fais quoi de ce truc qui fait mal? J'ai le choix. Pourquoi paniquer? J'ai le choix. Oh ben attends, ouf. Ah ouais, de l'aversion. Ah ouais, ok, obstacle. Ah ouais, l'obstacle, l'aversion. Ah ouais, bon, ok. Ah, puis, attends, voir demain, il faudra que je... Ah, j'étais pas là. Ah, ben, je suis là. Mais ça, c'est l'investigation. J'investigue l'expérience ici et maintenant. L'investigation, c'est pas créer un moi qui devrait être comme ci et comme ça. Pas du tout. Vous comprenez la différence? Important. L'énergie, elle se développe parce que nous pratiquons. Et l'énergie, c'est quelque chose qui est beau, parce que les personnes qui disent « Ah ben j'ai fait un quart d'heure tous les jours », pourquoi elles font un quart d'heure tous les jours? C'est qu'il y a cette énergie qui est là. L'effort se fait. Et quelquefois, il y a un manque d'énergie. L'effort ne se fait pas. Et il y a des périodes dans nos vies où l'effort se fait facilement, des périodes où il se fait moins facilement, des endroits où il se fait plus facilement, des endroits où c'est plus délicat ou difficile. Mais l'énergie est un facteur de l'éveil. Et on peut le remarquer, vous êtes là, c'est qu'il y a une énergie. Et vous pouvez le dire, ah ouais, il y a une énergie qui fait que je suis là. Et c'est une énergie spirituelle. Même si vous ne continuez pas la méditation vipassana après, ce que vous avez appris ici, ce que vous avez entendu, le temps que vous avez donné à l'énergie que vous avez donné à l'être, c'est pas perdu, hein. On ne sait pas quand ça peut réémerger, mais ce n'est pas perdu. La joie ou l'intérêt, l'investigation, l'énergie, la pleine conscience, je ne vais pas en parler, on en a beaucoup parlé la dernière fois. Il y a le calme. Tout d'un coup, quelqu'un disait, tout d'un coup dans une méditation, « Ah ben c'était calme !» Même si c'est la somnolence ou si c'est un peu une qualité de torpeur, je peux reconnaître, ah, tout d'un coup, c'est tranquille. Ok, il y a quelques pensées, mais ce n'est pas des pensées d'agitation. C'est agréable. Et je peux reconnaître des petits moments de calme. Très important de les reconnaître. Parce que nous voulons aller vers ce qui fait du bien. Naturellement, nous allons vers ce qui fait du bien. Et si je ne peux jamais remarquer ce qui me fait du bien, parce que je suis toujours un peu ambitieuse, et puis que je suis exigeante, et puis que je vois que tout ce qui ne va pas, ça va pas tellement bien jouer mon chemin spirituel. Le calme et la concentration. La concentration, ça se développe quand même, ça prend du temps. C'est pas en cette soirée qu'on va développer la qualité de la concentration. C'est une concentration sans objet. C'est la possibilité de maintenir la conscience ou l'attention sur l'objet que je choisis de travailler. Je peux rester sur les sons. Un qui arrive, il est fini. Un autre, il est fini. Les sons, juste les sons. Je peux rester sur les pensées. Elles font tout pareil, les pensées. Il y en a une qui émerge. Maintenant, il y en a une autre. Fini. Ah tiens, voilà encore une. Ah ben, je sais pas très bien laquelle va suivre. Ok. Ah, pensées qui émergent comme les sons. Elles émergent comme les sons. Si je m'intéresse à la pensée en tant que pensée, vous entendez bien que le son de ma voix émerge à un temps de vie et passe. Et ça, la conscience peut le noter. Elle peut le voir. Parce que les pensées ne sont pas mes pensées. C'est un autre chapitre. La concentration peut bien sûr rester sur la respiration, être extrêmement fine par rapport à la respiration, aller que sur la fin de l'inspire, la fin de l'expire. Elle peut aller dans l'espace et le silence, rester que dans l'espace et le silence. Bref, elle peut jouer. On peut jouer avec son esprit. Et puis la dernière qualité, c'est l'équanimité. J'en ai juste un peu parlé avant. Vraiment travailler cette sagesse de la non-préférence. Venez vous asseoir sans aucune attente. Si vous vous asseyez chez vous, n'ayez aucune attente. Ok, j'ai pris un quart d'heure pour venir m'asseoir. Je viens m'asseoir avec équanimité. Ça veut dire qu'il y a l'intérêt. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On va voir. Qu'est-ce que j'ai besoin de me dire? Ah, il va y avoir une bonne concentration. Ah, j'espère qu'il y aura une bonne concentration, qu'elle aura aussi l'agitation. Non, équanimité. Je vais voir. Et c'est une qualité merveilleuse. Parce qu'elle me permet de me mettre à distance de l'expérience et en même temps d'être intime, d'avoir vraiment l'intérêt. Je vais venir voir vraiment ce qu'il y a, mais je ne vais pas être identifiée comme une dingue et puis faire un drame si c'est difficile et puis une extase totale si ça réussit bien. De toute manière, ça change. Vous avez remarqué? Je suis tellement amoureux. Je suis amoureuse. Et puis une année après, bon, je suis pas amoureuse. Même si je suis mariée, ouais, j'étais amoureuse avant. Ça change. Alors c'est beau que ça change et c'est beau qu'on puisse être amoureux. Mais il faut savoir que ça change. On n'a pas besoin de prendre pour permanent ce qui ne l'est pas. Parce que si je crois que je vais être amoureuse à jamais, eh ben quand je serai désespérée, je vais croire que je serai désespérée à jamais. Ça va ensemble. Ok. C'est Ajahn Suchito qui dit « Le royaume de la pleine conscience n'est pas concerné par le fait d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose. » Il est concerné par le fait de parfois avoir quelque chose et parfois pas, mais de toujours pouvoir l'observer. C'est cela qui permet l'éveil de la sagesse. Je viens m'asseoir puis je me dis, bon, je vais voir si je vais crever de mal. Je vais peut-être crever de mal de nouveau. Ah ouais, je crève de mal. Eh bien, crevez. Vous n'allez pas mourir en 20 minutes, je vous promets. Non, c'est sûr, hein. Et si on se laisse crever comme ça une ou deux fois, on se fortifie énormément à l'intérieur. Parce que le moi se rend compte de ce qu'il est vraiment. Il n'a pas besoin d'être tout le temps ballotté par ses préférences. L'équanimité est une qualité merveilleuse. Dans ce qu'elle amène, le Bouddha parle de cette inébranlable paix du cœur, qui est un potentiel en chacun d'entre nous. Ce n'est pas certains privilégiés qui peuvent vérifier ça en eux-mêmes.